VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 18h30 en temps universel. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui en ce vendredi 15 juillet 2022. Jacques Aristide pour vous accompagner à la une de l'actualité ce soir. Deux ministres français au Niger pour affirmer la volonté de Paris d'approfondir le partenariat au Sahel.
L'agenda de sécurité qui doit être bâti, c'est un agenda qui respecte la souveraineté. Ce temps est révolu.
Dans la région sahélienne, justement, le nombre d'habitants fuyant leur foyer gonfle dramatiquement. L'ONU fait état de 5 millions de déplacés. Au Tchad, nouvelle date pour un dialogue de réconciliation nationale. La junte l'a fixé au 20 août. Le président américain Joe Biden en Arabie Saoudite aujourd'hui, après avoir juré durant sa campagne de faire de la riche monarchie pétrolière un paria en raison de graves violations des droits humains. Et ne manquez pas non plus vos deux rendez-vous habituels, l'économie et les sports, à venir dans 10 minutes. À Niamey aujourd'hui, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et son collègue des armées, Sébastien Lecornu, ont affirmé leur volonté d'approfondir le partenariat de Paris avec le Niger sur les plans économiques et militaires, à l'heure où la France cherche à redéfinir ses stratégies militaires en Afrique. Les détails avec Nani Talani.
Madame Catherine Colonna et Monsieur Sébastien Lecornu se sont entretenus ce matin avec leurs homologues nigériens avant de rencontrer le président Mohamed Bazoum. Ils se sont ensuite rendus sur la base aérienne projetée de Niamey qui concentre les moyens militaires français au Niger. Ils se rendront aussi sur une base militaire de Oualam au nord de Niamey où sont pilotées des opérations conjointes d'environ 300 soldats français et des forces armées nigériennes à proximité de la frontière avec le Mali. La France se retire définitivement du Mali et redéploie ses troupes au Niger. Les deux ministres français doivent également visiter le village de Simiri, près de Oualam, où la France finance un projet de lutte contre la malnutrition infantile. Paris et Niamey vont signer un prêt de 50 millions d'euros et un don de 20 millions d'euros au Niger. Sébastien Lecornu se rendra samedi en Côte d'Ivoire pour rendre visite aux troupes françaises.
Dans l'actualité également, le Togo a de nouveau été le théâtre d'une violente attaque perpétrée la nuit dernière par des djihadistes présumés dans le nord du pays. Le gouvernement dit redouter de possibles victimes. Ce sont deux villages situés dans la préfecture de Kepenjal, proche de la frontière avec le Burkina Faso, qui ont été attaqués selon des médias locaux qui ajoutent qu'une dizaine d'habitants ont été tués. Il s'agit de la quatrième attaque menée depuis novembre 2021 dans cette partie du Togo en proie à des incursions des groupes djihadistes présents de l'autre côté de sa frontière. Le Sahel compte près de 5 millions de personnes qui ont fui leur foyer et la vague grossit en raison des attaques djihadistes, mais aussi des conflits communautaires. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Le point avec Rosine Mounetzero.
La région du Sahel est confrontée à une grave crise humanitaire prolongée qui a contraint près de 5 millions de personnes à fuir leur foyer, dont près de 3 millions de déplacés internes, déplore l'OHCR. C'est préoccupant. Les pays qui inquiètent le plus sont le Burkina Faso et le Mali, a déclaré Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en visite au Tchad, pays qui accueille plus d'un million de réfugiés. Monsieur Grandi a affirmé que cela est dû à la crise climatique qui a aggravé la compétition pour les ressources, en particulier l'accès limité à l'eau, mais également aux groupes armés qui terrorisent les populations et à la réaction trop musclée des gouvernements. Selon le responsable onusien, l'action militaire seule ne suffit pas et doit être accompagnée par l'éducation, la lutte contre la pauvreté et les inégalités au Sahel.
La junte militaire au Tchad a fixé au 20 août le dialogue national, maintes fois repoussé car il n'y a toujours pas d'accord avec les rebelles ni avec l'opposition. Davantage avec Claire Morin-Gibourg.
Le décret du Conseil militaire de transition qui stipule que le dialogue national inclusif est convoqué à compter du 20 août a été signé hier par Albert Pahami Padake, le premier ministre tchadien. peu de précisions sont données. Aucune mention n'est faite sur la réintégration ou non de la principale plateforme de l'opposition non armée, Wakit Tama, dans les pourparlers. Ce forum de réconciliation nationale, initialement prévu pour le 15 février, puis le 10 mai, a été reporté parce qu'un pré-dialogue à Doha pour un accord de paix entre la junte et une cinquantaine de groupes rebelles piétine depuis 4 mois. Le général Déby semble avoir fixé une nouvelle date pour avancer vers ce dialogue qu'il a promis pour remettre le pouvoir aux civils, dans un délai de 18 mois, éventuellement renouvelable une fois.
Les participants aux travaux préparatoires d'une réunion entre Libyens ont adopté à Brazzaville aujourd'hui des principes de base pour la tenue de la réconciliation nationale en Libye. D'après le communiqué final de la rencontre, présidée par le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, la concertation a réuni des représentants de la Chambre basse du Parlement libyen, du Conseil présidentiel, de même que des représentants du candidat à l'élection présidentielle avortée de décembre, Seif al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi. Il n'a pas été possible de savoir si tous les protagonistes libyens étaient représentés, notamment ceux des deux gouvernements rivaux, l'un basé à Tripoli, l'autre soutenu par le Parlement à Sirte. Au moins 14 personnes ont été tuées dans des affrontements tribaux dans l'État soudanais du Nil Bleu, frontalier de l'Éthiopie. Les heurts entre les tribus Haoussa et Barti ont débuté lundi dans le district de Kisan, avant de cesser puis de reprendre ce vendredi. Le bilan fait état également d'une quarantaine de blessés, certains graves. Le nouveau pouvoir militaire, issu d'un putsch 2 ans après la chute d'Omar el-Béchir, n'a jusqu'ici pas commenté les incidents meurtriers.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden est arrivé à Jeddah en Arabie Saoudite aujourd'hui pour boucler sa tournée de 4 jours au Moyen-Orient. Le voyage marque un réchauffement des liens entre Israël et l'Arabie Saoudite qui trouvent une cause commune contre les menaces de l'Iran. Le point avec Yacoub Aouidraougou.
Le président Joe Biden rencontre le roi Salman et va participer avec son équipe à des discussions avec le prince héritier Mohamed Ben Salman et des ministres saoudiens. Biden cherche à convaincre le royaume d'ouvrir les vannes de sa production pétrolière. L'enjeu, abaisser le prix du gallon d'essence à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis. Demain samedi, le président américain prendra part à un sommet des dirigeants des monarchies arabes du Golfe. Air Force One a atterri à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, après un vol direct depuis Israël, une première. Washington cherche à normaliser les relations entre ses deux importants partenaires au Moyen-Orient. Peu avant son arrivée, 2 avancées ont été enregistrées. Israël a dit n'avoir aucune objection au transfert de 2 îlots stratégiques en mer Rouge à l'Arabie Saoudite, qui a annoncé l'ouverture de son espace aérien à tous les transporteurs, y compris israéliens. Il s'agit d'un premier pas, a déclaré le premier ministre israélien, Yair Lapid, remerciant l'Arabie Saoudite pour cette mesure.
Moscou affirme avoir visé une réunion de commandement des troupes ukrainiennes à Vinnytsia, ville de l'Ukraine, où un bombardement russe condamné par l'ONU et l'Union européenne a fait au moins 23 morts. Dans l'est de l'Ukraine, les forces séparatistes pro-russes font état de la mort en détention d'un ressortissant britannique, Paul Yuri, capturé en avril dernier. Information jugée alarmante par Londres. La Russie indique avoir interdit d'entrer sur son territoire 384 députés japonais, en réplique à des sanctions imposées par le Japon à des élus russes dans le contexte de l'offensive armée contre l'Ukraine. La NASA, pour sa part, indique reprendre les vols conjoints avec les Russes vers la station spatiale internationale, ce malgré les efforts des États-Unis pour isoler Moscou après l'invasion de l'Ukraine. 2 astronautes américains voleront à bord d'une fusée russe Soyouz lors de 2 missions distinctes, dont la première prévue pour septembre prochain. 2 cosmonautes russes voleront également à bord de fusées SpaceX, une première. Un tel échange était prévu de longue date, mais attendait la validation finale de la Russie. Bataille sino-américaine sur l'imposition en Haïti d'un embargo sur les armes légères. La Chine a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'imposer un tel embargo, mais les États-Unis ont écarté la requête dans un projet de résolution qui doit être mis au vote aujourd'hui. Ces échanges interviennent alors que les autorités haïtiennes ont procédé à une rares saisies d'armes au Port-au-Prince, la capitale, des mandats d'arrêt ont été émis contre des individus suspectés d'être liés à l'arrivée de cette cargaison en Haïti. Le pays demeure sous pression pour engager un processus politique conduisant sans tarder à des élections présidentielles et législatives. Et voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. Sans plus tarder en condensé des nouvelles économiques, il est l'heure de la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Au Cameroun, plus de 1 000 milliards de francs CFA de recettes fiscales ont été collectés au premier trimestre 2022. Une enveloppe en hausse de 139 milliards de francs CFA grâce à des mesures comme la fiscalisation des organismes à but non lucratif. Également, la collecte de la taxe sur les transferts d'argent par voie électronique va procurer à l'État environ 20 milliards de francs CFA de recettes supplémentaires tout au long de l'année. La Centrafrique a 3 mois pour obtenir des garanties de financement de la part de ses partenaires de développement et pour harmoniser la loi centrafricaine sur les cryptoactifs, notamment vis-à-vis de ses engagements au niveau de la zone CEMAC. C'est ce qu'a indiqué hier le FMI qui termine aujourd'hui sa deuxième revue de son programme de référence. Lors d'une réunion du G20 en Indonésie, les grands argentiers occidentaux ont condamné aujourd'hui l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ont accusé les responsables russes d'avoir créé une onde de choc dans l'économie mondiale. La Russie, elle, accuse les sanctions occidentales d'être responsables de ces problèmes.
Et maintenant, résumé de l'actualité sportive avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Début ce vendredi des mondiaux d'athlétisme ici aux États-Unis.
Oui, ça se passe à Eugene, dans l'Oregon. Ce soir vont se disputer les séries du 100 mètres. Les espoirs du continent reposent sur les épaules de Ferdinand Omanyala. Le sprinteur kenyan, détenteur du record d'Afrique du 100 mètres, est le troisième meilleur performeur de l'année dans cette épreuve avec ses 9 secondes 85 centièmes.
On connaît les oppositions des demi-finales de la CAN féminine Maroc 2022.
Le Nigeria fera face aux pays hôtes et l'Afrique du Sud jouera à la Zambie. Lors des derniers quarts de finale disputés hier jeudi, le champion en titre nigérien a fait le service minimum s'imposant 1-0 devant le Cameroun. L'Afrique du Sud a disposé de la Tunisie 1-0. Les demi-finales sont prévues pour le lundi 18 juillet. Les 4 demi-finalistes seront les représentants du continent à la prochaine Coupe du Monde féminine prévue en juillet-août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Transfert, Riyad Mahrez prolonge de 2 saisons à Manchester City.
Oui, l'attaquant algérien est désormais lié au club anglais jusqu'en 2025, annonce le champion d'Angleterre en titre. Riyad Mahrez a rejoint City en 2018 lors de ses 4 saisons en Sky Blues. Il a remporté 3 championnats, 3 coupes de la Ligue et 1 coupe d'Angleterre et aussi atteint la première finale de Ligue des champions de l'histoire du club, perdue en 2021 contre Chelsea 1-0. Sous les ordres de Pep Guardiola, il a disputé 189 matchs, marquant à 63 reprises et offrant 45 passes décisives à ses coéquipiers.
Le tribunal arbitral du sport rejette le recours de clubs russes mis au banc par l'UEFA.
Le TAS a rejeté le recours déposé par 4 clubs russes contre leur mise au banc des compétitions européennes en 2022-2023 décidées par l'UEFA à cause du conflit en Ukraine. C'est ce qu'indique l'institution vendredi dans un communiqué. Le tribunal arbitral du sport a aussi rejeté le recours de la Fédération russe de football qui contestait son exclusion de toutes les compétitions organisées par la FIFA et l'UEFA. Depuis mai, l'UEFA a annoncé qu'aucun club russe ne participerait à la saison 2022-2023 des compétitions interclubs européennes, à savoir la Ligue des champions, la Ligue Europa ou encore la Ligue Europa Conférence. Le Zénith Saint-Pétersbourg, le CSKA Moscou, le Dynamo Moscou et Sochi avaient alors saisi le TAS pour contester cette mesure. Pour sa part, fin février, la FIFA a exclu la Russie du Mondial 2022 au Qatar.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre Trans Magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Je vous le disais un peu plus tôt, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et son collègue des armées, Sébastien Lecornu, sont en visite au Niger, pays qui va accueillir des militaires français après leur départ du Mali. Le point avec notre correspondant dans la capitale nigérienne, Abdul Razak Idrissa.
Nous sommes là à la demande du président de la République.
Le format de la visite est inédit. Les deux ministres en charge des volets essentiels de la politique extérieure française ensemble dans un pays alors que la France fête sa République. L'enjeu est donc de taille et pour le patron de la diplomatie nigérienne, l'explication est simple. Assoumi Massaoudou.
Cela témoigne de la qualité de la relation qui nous unit, qui unit la France au Niger. Cela témoigne d'une grande amitié et mieux d'une grande complicité dans tous les domaines entre nos deux pays.
Le Niger reçoit la force militaire française de lutte contre le terrorisme au Sahel que le Mali a déclaré non grata. Les deux ministres sont venus dire merci aux autorités du Niger qui l'accueillent, mais aussi et surtout leur dire que Barkhane au Niger sera différent de Barkhane au Mali, puisque désormais c'est en fonction des besoins qu'elle interviendra. Sébastien Lecornu, ministre français de la Défense.
L'agenda de sécurité qui doit être bâti, c'est un agenda qui respecte la souveraineté. Ce temps est révolu aussi, dans lequel on enjambe, dans lequel parfois on peut ne pas respecter suffisamment cela. Donc nous nous mettons à porter des expressions de besoin documentées, techniques, parce que les choses militaires sont bien souvent des choses éminemment techniques et opérationnelles, telles qu'elles seront formulées. Nous souhaitons que nos partenaires montent en puissance. C'est véritablement l'état d'esprit qui est le nôtre et ce n'est pas autre chose.
Comment tout cela va se faire sur le terrain, ce n'est pas encore décidé. Il faudra attendre le mois de septembre prochain, le temps pour les deux états-majors des armées des deux pays réfléchissent à la meilleure stratégie. Les deux ministres français ont été reçus par le président Bazoum Mohamed. Aussi, deux conventions ont été signées entre les deux pays. Une première d'un montant de 20 millions d'euros sous forme d'aide budgétaire d'urgence. La deuxième, elle, vise le financement du réseau électrique nigérien de l'ordre de 50 millions d'euros.
Merci madame, merci monsieur.
Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Merci à nos amis journalistes.
Le Niger, voisin du Mali, devient donc le partenaire clé de Paris dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Yacouba Ouédraogo a joint à Niamey Abbas Abdoul Moumouni, expert en prévention de la radicalisation dans le Sahel et au lac Tchad.
Traditionnellement, Niamey était le pivot pour toutes les puissances occidentales qui veulent contrôler le Sahel. Autrement dit, en fait, c'est à partir du Niger que seulement on peut contrôler effectivement le Sahel. C'est assez symbolique parce que ça intervient dans un contexte où le Mali annonce suspendre, par exemple, les rotations de l'AMINUSMA parce qu'il y a eu des incidents diplomatiques entre le Mali et la République du Côte d'Ivoire. Relatif à l'histoire des 49 militaires arrêtés et dans un contexte où Niamey quand même est en train de devenir le partenaire privilégié de l'Union européenne et de la France particulièrement parce que avec la disparition du maréchal Idriss Déby, il n'y a plus d'hégémon du point de vue régional, en tout cas après le départ aussi du président Issoufou. Donc c'est Niamey qui s'impose, c'est le président Bazoum qui s'impose.
La France était déjà présente au Niger. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette fois-ci?
Et ce qu'il y a de nouveau, s'il faut le dire, c'est qu'on veut placer Niamey au centre des enjeux stratégiques de l'Union européenne, comprenez. Et Niamey est musclé parce qu'il y a un retrait massif des opérations des militaires affectés, par exemple, de la France, de l'Allemagne, on va dire de l'Union européenne, parce que le Mali dit carrément vouloir arrêter les opérations de l'AMINUSMA et même des forces européennes engagées au Mali. La nouveauté, c'est que Niamey est en train de devenir un centre musclé avec la délocalisation, par exemple, du Kigé, des Barkhane, de N'Djamena à Niamey. C'est tout ça qui fait l'enjeu et qui corrobore péremptoirement le symbole ou la pertinence même de cette co-visite des ministres français des armées et des affaires étrangères.
Les ministres français disent désormais accompagner leur action militaire d'action de développement avec un prêt de 50 millions d'euros accompagné d'un don de 20 millions d'euros au Niger. Est-ce que c'est désormais la solution, mettre en avant les actions de développement?
Par exemple, de 2011 à 2019, le budget de la défense au Niger a connu un accroissement exponentiel. Il est passé à 246% de hausse. Alors que le nombre de morts, des victimes, que ce soit du côté des militaires et des civils, croît de manière exponentielle aussi que le budget, quoi. Donc, comprenez qu'à partir de cet instant-là, la dimension militaire à elle seule ne suffit plus pour lutter contre le terrorisme. Donc, il faut, comme l'avait observé très justement Ban Ki-moon, que les missiles peuvent tuer les terroristes, mais la bonne gouvernance tue le terrorisme. Donc, il me semble important et impérieux de mettre en avant la question du développement en matière de prévention, parce que là, il s'agit de prévenir le basculement, la radicalisation et le terrorisme. Évidemment, quand on parle de la question du développement, ça inclut aussi le renforcement de la résilience communautaire face à la radicalisation et l'extrémisme violent. Donc, quand les gens sont résilients et ne peuvent pas adhérer au récit attrayant des groupes extrémistes violents.
Abbas Abdoul Moumouni, expert en prévention de la radicalisation dans le Sahel et au lac Tchad, joint à Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédié, hier. La réunion, signe de l'apaisement du climat politique, a été décrite comme une rencontre de retrouvailles entre les trois hommes qui n'avaient pas été réunis depuis la grave crise post-électorale de 2010-2011. Retour sur cet événement inédit avec Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
Le président de la République a reçu ses hôtes au salon d'honneur du palais de la présidence au plateau. Tous trois installés, ils pouvaient se parler sans intermédiaire et sans réserve. Après ce conclave qui a duré un peu plus d'une heure, les trois leaders politiques font face à la presse. C'est une ambiance au bon enfant.
Je suis avec mes prédécesseurs, le président Henri Conan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Nous avons une très bonne séance de travail. Et nous sommes convenus que le Benjamin Laurent va lire un document pour rendre compte de l'échange que nous venons d'avoir.
Doyen, vous êtes d'accord avec ça?
Absolument.
Bon, d'accord.
Bien, Benjamin tient la parole.
L'ex-président Laurent Gbagbo a été désigné par ses aînés pour lire la déclaration finale.
La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité leur vue sur toutes ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat sociopolitique national en Côte d'Ivoire.
Le président Alassane Ouattara a repris la parole. C'est une réunion ordinaire et qu'elle sera régulière.
Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. Donc nous aurons l'occasion de nous revoir régulièrement en fonction de leur disponibilité.
Dans les rues d'Abidjan, les réactions des jeunes Ivoiriens.
Je pense déjà que c'est une bonne initiative parce que c'est du jamais vu. Trois grands qui ont gouverné à des périodes très différentes sur un grand plateau. Vraiment, on espère que ça apportera quelque chose de positif déjà de la jeunesse dans le pays.
Ça va encore empiler la réconciliation ivoirienne. Ils ont été acteurs de tout ce qui s'est passé dans votre pays. Du coup, s'ils veulent se mettre ensemble, nous aussi, les jeunes, voilà, ça va nous aider aussi à comprendre que voilà, la politique, c'est un jeu. C'est un jeu d'idées.
On parle de régénération de la scène politique, on parle aussi de renouvellement même des classes politiques. Donc, il y a l'horizon 2025 qui est là. Donc, ce que nous voulons, c'est d'essayer de clarifier les choses pour qu'on puisse voir plus clairement vers quel horizon nous, la jeunesse, aujourd'hui, nous allons.
Au-delà de l'aspect médiatique, cette rencontre veut créer les conditions d'une paix durable et renforcer la stabilité politique et sociale dans le pays. Delphine Abouise, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Le président américain est donc arrivé en Arabie Saoudite aujourd'hui, dernière étape de sa tournée au Moyen-Orient. Quelques heures plus tôt, Joe Biden avait rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à Bethléem, où le locataire de la Maison-Blanche a annoncé des aides économiques. Le chef de l'exécutif américain a toutefois indiqué que les conditions n'étaient pas réunies actuellement pour reprendre les pourparlers de paix israélo-palestinien. Nanit Talani nous en dit davantage.
La rencontre entre les présidents américains et palestiniens a eu lieu au palais présidentiel de la Moukata à Bethléem en Cisjordanie. Biden a soutenu que les Palestiniens ont besoin d'une voie politique vers la paix avec Israël, même si une solution à deux États semble lointaine. Il a réitéré que les conditions n'étaient pas réunies pour relancer le processus de paix israélo-palestinien au point mort depuis 2014.
Il doit y avoir un horizon politique pour le peuple palestinien. Nous ne pouvons pas permettre au désespoir d'hypothéquer l'avenir.
Le locataire de la Maison Blanche a visité aussi l'hôpital Augusta Victoria de Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville sainte, où il a annoncé une aide de 100 millions de dollars. Il a ensuite promis une contribution supplémentaire de 200 millions de dollars pour l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Mahmoud Abbas a lui insisté sur des mesures politiques afin de mettre un terme, selon lui, à l'apartheid israélien dans les territoires palestiniens occupés. Il a aussi demandé à M. Biden de rouvrir le consulat pour les Palestiniens à Jérusalem, fermé sous l'administration Trump, et de rendre Israël responsable de la mort de Shireen Abu Akleh, la journaliste américano-palestinienne, tuée le 11 mai par l'armée israélienne en Cisjordanie. Biden lui en a fait la promesse.
Les États-Unis continueront d'insister pour que l'on rende compte de sa mort de manière complète et transparente.
À Jérusalem, des manifestants palestiniens ont tendu des bannières réclamant justice pour Shireen Abu Akleh.
Notre message au monde entier, c'est que n'importe qui veut venir en Palestine, mais ne veut pas discuter du droit au retour des prisonniers, des colonies, n'est pas le bienvenu, qui qu'il soit, Biden ou quelqu'un d'autre.
Mahmoud Abbas a rappelé que les Palestiniens attendent avec impatience les efforts américains pour arrêter les colonies et la violence des colons, ainsi que la fin de l'expulsion des Palestiniens de leurs terres.
La clé de la paix commence par la reconnaissance de l'État de Palestine.
Fervent catholique, M. Biden s'est rendu ensuite à la basilique de la Nativité de Bethléem pour achever sa visite en Terre Sainte avant de se rendre en Arabie Saoudite. Demain samedi, il participe à un sommet des dirigeants des monarchies du Golfe et d'autres leaders arabes. Quelques signaux très positifs sont déjà lancés. Israël a déjà dit n'avoir aucune objection au transfert de deux îlots stratégiques en mer Rouge à l'Arabie Saoudite et Jeddah a annoncé l'ouverture de son espace aérien à tous les transporteurs, y compris israéliens. Ces deux initiatives pourraient ouvrir la voie à un éventuel rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui a normalisé ses relations en 2020 avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn.
Et voilà, point final à cette édition du Monde Aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par mon ami et collègue Lionel Gaïma. C'était Rob McLean à la technique. Merci aux équipes de la rédaction et de la production de VOA Afrique. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. À très bientôt. Take care.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA.